Radio Kapi.
Oh Kapi. Nous vivons une autre tomba à la présentation du journal.
Attendu depuis quelques mois, c'est ce lundi 25 octobre que l'on a ouvert le banc pour le procès mettant en cause l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Patrice Kitebi de FPI et Christo Grobert de Africom concernant le détournement présumé des deniers publics dans le projet Bukangalonzo. Info à suivre en ouverture de ce journal. En actualité sur Radio Kapi, nous faisons le point sur le projet de loi relative aux finances publiques depuis son dépôt par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. 40 jours après, cette loi n'est pas toujours passée à l'examen. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, est notre invité ce soir. Avec Martial Papimukeba, notre permanent à Béni, ils échangent autour de l'apport de la MONUSCO dans la recherche de la paix dans cette zone et d'autres perspectives envisageables. Restez branchés sur Radio Kapi pour en savoir davantage. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Justice pour commencer, affaire Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle a ouvert ce lundi le procès qui oppose le ministère public au prévenu Augustin Matata, ancien Premier ministre, Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI et Christo Grobert, gérant du sud-africain de la société Africom. Ils sont poursuivis pour détournement présumé des deniers publics dans la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, projet lancé en 2014 à 220 km de la capitale. À la première audience, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a partiellement présenté les faits mis à charge des prévenus. Il a été interrompu en renvoyant la cause 8 novembre prochain, faute d'interprète pour le Sud-Africain. Reportage de Jeff Ngoy.
Dans sa partie liminaire des faits, le ministère public présente Matata Ponyo comme celui qui a bafoué la réglementation en vigueur concernant la passation des marchés publics, ce qui aurait mis en débâcle le projet Bukangalonzo.
En matière de marchés publics, on doit toujours recourir à un appel d'offres. Nous aurons l'occasion de vous donner également le détail de cette loi, mais elle a été conçue pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. Monsieur Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré.
Une des parties au procès, le conseil de Patrice Kitebi, Isaac Kipoulou, réagit aux faits.
Il a fait son travail et nous allons rencontrer tous ces moyens qu'il a eu à relever.
On n'engage pas un débat entre la haute cour et les avocats. Il faut laisser cela aux juridictions inférieures. C'est un rappel à l'ordre du juge pénal Dieudonné Kalouba à l'endroit de la défense des Sud-Africains sur l'exception d'irrégularité de saisine. Pour la cour, celle-ci est régulièrement saisie.
Le délai de 40 jours accordé à l'Assemblée nationale pour examiner le budget 2022, conformément à l'article 83 de la loi relative aux finances publiques, la LOFIP, vient d'expirer ce lundi. La culture de l'état des droits exige donc à l'Assemblée nationale de transmettre le projet du budget 2022 dans l'état pour qu'il soit examiné dans les 20 jours au Sénat. Ce retard ne permettra pas non plus au Parlement d'examiner minutieusement le budget 2022, surtout que l'article 87 de la LOFIP lui exige d'examiner d'abord la loi portant rédition des comptes de l'exercice 2020 avant d'amorcer l'examen du budget. Michel Kifindangoy.
C'est depuis le 15 septembre dernier que le gouvernement Samalo Kondé a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de l'année 2022, conformément à l'article 83 de la loi de 2011 relative aux finances publiques. Mais seulement, l'Assemblée nationale n'a pas pu maintenir cet élan de respect des textes dignes d'un état de droit pour un examen rigoureux du budget. En effet, l'alinéa 3 de l'article 83 de la LOFIP stipule que dans tous les cas, l'Assemblée nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adopter le projet de loi des finances. Ce délai de 40 jours vient d'expirer ce lundi, alors que l'Assemblée nationale n'a même pas encore débuté l'examen du projet de budget 2022. Pire, même le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 n'est pas encore examiné conformément à l'article 87 de la LOFIP, qui en fait un préalable pour l'examen du budget. S'il faut appliquer de strictes rigueur l'alinéa 4 de l'article 83 de la LOFIP, l'Assemblée nationale ne pourra plus examiner le budget 2022. Elle devra, dans le respect de cette disposition légale, transmettre ce projet du budget au Sénat, qui sera appelé à l'adopter dans les 20 jours.
Et comment l'Assemblée nationale va-t-elle s'y prendre pour rattraper ce retard et examiner le budget sans heurter les dispositions des articles 83 et 87 de la loi relative aux finances publiques? Toute tentative pour joindre le bureau de la Chambre basse s'avère jusqu'ici vaine. Une réunion a toutefois eu lieu ce mardi en vue de convoquer une plénière demain mardi. D'après quelques députés membres de la Commission politique, administrative et judiciaire, le retard dans l'examen du budget n'est pas la faute de l'Assemblée nationale, mais plutôt celle du gouvernement qui a déposé le budget sans jamais déposer dans le délai la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020. L'examen de cette loi est un préalable à l'examen du budget, conformément à l'article 87 de la LOFIP, a précisé Lucien Kassongo. Au Kassai oriental, ouverture ce lundi à Mbujimayi du bureau de réception et traitement des candidatures BRTC pour la réception des candidatures au poste de gouverneur de province. D'après le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, l'enregistrement des candidatures est prévu du 25 au 31 octobre. Nicolas Kalambayi demande à cet effet aux candidats gouverneurs et aux mandataires des partis ou regroupements politiques de venir rapidement retirer les formulaires au BRTC. Esther Ndalafina.
C'est depuis 8h30 que le bureau de réception et traitement des candidatures du secrétariat exécutif provincial de la CENI Kasaï Oriental a été officiellement ouvert pour le retrait des formulaires par les candidats gouverneurs, les mandataires des partis ou regroupements politiques intéressés à briguer le poste de gouverneur de province. Ce bureau sera fermé à 16h30 durant toute la période prévue pour les opérations, affirme le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Selon Nicolas Kalambayi, le bureau est composé d'un président, d'un juriste vérificateur, d'un informaticien et d'un assistant réceptionniste. Le secrétaire exécutif affirme que depuis l'ouverture, aucun candidat ou mandataire de parti ou regroupement politique n'est passé retirer les formulaires. La caution à ce poste est fixée à 20 millions de francs congolais selon la loi électorale. Le secrétaire exécutif demande à cet effet aux concernés de faire diligence pour éviter l'engouement au BRTC le dernier jour pendant cette période de COVID-19. L'élection du gouverneur de province du Kassai Oriental est très attendue par les habitants car depuis la déchéance du gouverneur Jean-Maweja Muteba, plus de 16 candidats de l'UDPS ont déposé leur candidature à leur parti politique pour manifester leurs ambitions. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Signalons par ailleurs que les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC pour la réception des candidatures au poste de gouverneur de province sont aussi ouverts au Congo central et au Kassai central. Sécurité à présent, des miliciens du groupe armé Codeco ont incendié dimanche 6 villages en territoire des Djougou où ils ont également tué 3 personnes. Du coup, ces entités et d'autres situées dans la périphérie se sont presque vidées de leurs habitants. Certains ont pris la destination de la ville de Bounia. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de mettre fin à ces violences qui prennent des proportions inquiétantes. Du côté de l'armée, on indique que des opérations sont en cours pour mettre hors d'état de nuire ces miliciens. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis la fin de la semaine dernière que le groupement Molabo en territoire de Djougou est envahi par ses assaillants qui commettent des actions contre des civils. Hier dimanche, ils ont mis le feu à 6 villages, renseignent des sources de sécurité. Il s'agit de Palestine, So, Elisha, Jojo, Deto et Matete. Boutiques et maisons d'habitation ont été saccagées par ces miliciens qui ont emporté des biens de la population avant de quitter les lieux. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont une fille de 16 ans, indique un notable de la région. Face à cette insécurité, plusieurs personnes ont dû quitter la zone pour se mettre à l'abri. Il s'agit notamment des habitants des villages Lopa et Katoto. Certains ont pris la destination de Bounia ou Diga Barrière. D'autres sont cachés en brousse, proche de leur village, pour accéder à leurs produits champêtres. Plusieurs organisations de la société civile ainsi que des acteurs politiques demandent au gouvernement de mettre fin à ces violences qui ne font que s'accentuer. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, une équipe de la MONUSCO renforce les capacités des commandants et officiers de l'armée de la et la PNC de Kigulube. La formation porte sur les mécanismes de prévention et protection contre les droits de l'homme et le droit international humanitaire en zone de conflit. 30 officiers, dont la moitié de la PNC, prennent part aux assises du 24 au 28 octobre 2021. À Kigulube, cela se passe à Kigulube, comme le dit Jean Kassami.
Kigulube n'est pas un modèle en matière de respect des droits de l'homme. Des barrières payantes sont érigées le long de la route nationale numéro 2 sur l'axe Kigulube-Maimingi. Chaque passant débourse obligatoirement 1000 francs congolais, faute de quoi il est passé à tabac. Ces barrières étaient pourtant instituées pour sécuriser les points chauds où les combattants Maïmaï venaient piller régulièrement les usagers de la RN2. Pour l'abbé curé de la paroisse catholique de Kigulube, les services de sécurité tracassent la même population qu'ils sont censés protéger contre les incursions à répétition des groupes armés, ce qui pousse la population de Kigulube à dire que son salut ne proviendrait que du rétablissement de l'autorité de l'État, dont la présence n'est pas réellement remarquable sur toute l'étendue de la chefferie de Bamukuba Sud. Une autre entrave, ce sont ces arrestations arbitraires pour dette opérées par la police à Kigulube. L'équipe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en mission sur place essaye de recadrer les officiers ayant en charge l'encadrement des policiers et des militaires basés à Kigulube. De Kigulube, Jean Kassami, Radio Okapi.
Parlons à présent des péripéties autour de la rentrée scolaire. Les cours n'ont pas repris, ce l'on dit, dans les écoles publiques du Congo central. Le souhait du gouverneur intérimaire qui proposait une solution locale pour le bien des élèves ne semble pas avoir été exaucé par les enseignants. Les délégués des enseignants du Congo central conditionnent la reprise par le paiement d'une prime dite provinciale à chaque enseignant. Simon Siloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, dit avoir fait part des exigences des enseignants à l'autorité provinciale. Ils attendent ainsi sa réaction avant de reprendre le travail. Le point avec Nana Pleurich Mambou.
Un mouvement de grève ne peut être éternel, dit Justin Luemba, gouverneur intérimaire du Congo central. Il dit tenir une solution locale pour la reprise des cours en attendant l'aboutissement des pourparlers entre les ministres de l'EPST et les banques syndicales. L'autorité provinciale a émis ses vœux le lundi 18 octobre au cours de l'entretien qu'il a eu avec les staffs éducationnels du Congo central et les élèves qui manifestaient pour revendiquer la reprise des cours. Sur base de la requête de Justin Luemba, les délégués des enseignants du Congo central ont tenu samedi une réunion pour réfléchir autour de la demande de l'autorité provinciale. Pour l'intérêt des enfants, les enseignants acceptent de reprendre les chemins de l'école, mais à condition de percevoir chacun une prime émanant de la province. Simon Siloulou est le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central.
On conditionne la rentrée sur 200 et 250 000 et l'autorité provinciale l'a entendu, il a pris l'acte. Nous attendons sa réaction avant de rentrer.
Et jusque-là, ils n'ont pas encore reçu une quelconque réaction de l'autorité provinciale du Congo central. Dans l'entretemps, plusieurs écoles publiques sont fermées. Les élèves que nous avons interrogés ce matin affirment être fatigués de se rendre à l'école alors qu'ils n'y sont pas encadrés. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Et à Goma, la plupart des écoles privées n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi. C'est suite aux appels à des manifestations lancées tout le week-end par un mouvement qui se présente comme le comité des élèves. Ce mouvement a fait circuler des messages dans les réseaux sociaux pour annoncer une marche pacifique ce lundi et le retrait de tous les élèves des écoles privées pour dire non à la grève des enseignants dans les écoles publiques. Sifamagourou.
C'est pour prévenir d'éventuels dégâts et attaques contre les élèves des écoles privées qui fonctionnent depuis la rentrée scolaire que certains établissements scolaires privés ont demandé aux parents de garder leurs enfants et d'observer l'évolution de la journée. D'autres élèves qui ont pu se rendre ce matin dans les écoles ont aussitôt été priés de retourner. Cependant, le trafic est normal dans la ville, bien qu'il commencé timidement tôt le matin, mais aussi les boutiques et magasins sont ouverts. Toutefois, on observe une forte présence des éléments de la police nationale et des véhicules d'intervention sur les principaux points chauds de la ville, notamment au rond-point Signers, Mutinga, entre président, Instigo, ainsi que dans la partie Majingo. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, le quotidien d'une personne de petite taille péjorativement appelée nain ou naine n'est pas facile. Elle est confrontée à plusieurs difficultés qui commencent déjà dans sa propre famille. Ces propos sont de Gloria Maria Sembula à l'occasion de la célébration ce 25 octobre 2021 de la 9e édition de la Journée internationale du nanisme. Licenciée en communication sociale de l'Institut facultaire des sciences de la communication et de l'information IFASIC à Kinshasa, Gloria Maria Sembula est actuellement chef de division chargé des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au Conseil économique et social. Elle appelle les autorités à prendre aussi en compte cette catégorie de personnes vivant avec handicap. On écoute Gloria Maria Sembula parler de son expérience en tant que personne de petite taille au micro de Alain Irung.
C'est vrai que c'était pas facile. Je suis aînée de ma famille, première grossesse, premier enfant. Mes parents m'ont accueillie avec tant d'amour. Ils m'ont comblée de tendresse et d'affection. Ils m'ont appris à surmonter mes épreuves. Ils ne m'ont pas choyée, au contraire. Ils m'ont dit que tu es dans un monde où il te demandera de fournir beaucoup d'efforts pour te faire accepter, d'efforts pour faire comprendre à la société que tu es comme tout le monde, d'efforts aussi pour te marier, pour beaucoup de choses. Donc j'ai été très bien entourée de par ma famille, de par mes parents, et de par les personnes qui m'entourent. Et cette facilité m'a permis de pouvoir, c'est vrai, trouver du travail. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile. On m'a récalé plusieurs fois, mais après plusieurs tentatives et que j'avais déjà une ambition, c'était que malgré mon handicap, je ne montrerai pas mon handicap d'abord, mais je montrerai mes compétences et mes attributions. Aujourd'hui, je peux être fière de dire que mes parents ont fait du bon travail. S'il vous plaît, prenez-nous comme tout le monde, prenez-nous comme les albinos, prenez-nous comme les personnes aveugles, prenez-nous comme les personnes en situation de handicap, mais donnez-nous une place pour nous découvrir.
Notez que l'Association des personnes de petite taille du Sénégal séjourne déjà à Kinshasa dans l'attente de la délégation camerounaise. Elles vont ensemble avec Gloria Maria Semboula présenter leur plaidoyer au Conseil économique et social jeudi prochain.
Actualité internationale.
L'armée soudanaise a arrêté lundi les dirigeants civils, notamment le premier ministre, parce qu'ils refusaient de soutenir un coup d'État, a ainsi annoncé le ministère de l'Information après des semaines de tensions entre militaires et civils qui se partagent le pouvoir depuis 2019. C'est un coup d'État militaire, dénonce l'association des professionnels, l'un des fers des lances de la révolte de 2019 qui a mis fin à 30 années de dictature d'Omar el-Béchir dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde. Et puis le procès des assassins présumés de l'ancien président révolutionnaire du Burkina Faso Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État, a repris lundi à Ouagadougou après deux semaines de suspension. Ouvert le 11 octobre devant un tribunal militaire, 34 ans après les faits, le procès avait été suspendu à la demande d'avocats de la défense commis d'office qui souhaitaient plus de temps pour pouvoir étudier les 20 000 pièces du dossier. 12 des 4 accusés étaient présents lundi à la reprise du procès. Le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, était absent à la reprise du procès, tout comme il l'était à son ouverture.
L'invité.
Notre invité est le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, qui vient de clôturer à Bénin une visite officielle de 5 jours en RDC. Jean-Pierre Lacroix s'exprime sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'appui de la MONUSCO et FARDC dans les opérations d'État des ADF et le processus pour les élections prévues en 2023 dans le pays. Il répond aux questions de Martial Papi-Moukeba.
Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer votre visite en République démocratique du Congo par l'étape de Béni après avoir été à Kinshasa, la capitale, Kalemi dans les Tanganyika, Goma et Butembo dans les Nord Kivu. Tout d'abord, pourquoi ces villes spécifiques en dehors de la capitale?
Il était, comme vous le sous-entendez, indispensable évidemment d'aller à Kinshasa et de rencontrer les plus hautes autorités, le président de la République, le gouvernement et aussi la société civile et membres des partis politiques. Après, je crois que le choix de Kalemi, c'est un choix qui correspond à la situation particulière du Tanganyika, où il y a eu, dans la plus grande partie du territoire de la province, une réduction de la violence qui permet à la MONUSCO de procéder à une sortie graduelle. Je dis une partie du territoire parce que, je l'ai expliqué déjà, la MONUSCO va rester présente avec des éléments militaires au nord du territoire. Mais pour le reste, il s'agit d'une transition. L'aspect de poursuite par les Nations Unies du soutien aux efforts des Congolais eux-mêmes, mais dans des modalités qui vont évoluer. En ce qui concerne le Nord Kivu, là c'est différent parce que, évidemment, la situation de sécurité reste très préoccupante. Je note que à Béni, les représentants des différents groupes de la société civile qui étaient venus très nombreux à une réunion qu'on a eue avec eux, nous ont tous dit que la situation dans la ville de Béni s'est améliorée. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est un résultat positif et il faut dire, lorsque nous avons avec les partenaires congolais des résultats positifs, il faut le dire. Mais évidemment, il y a beaucoup à faire parce que dans le reste de la province, province, et en particulier dans ce qu'on appelle le Grand Nord, il y a le défi des ADF qui demeure sur une bonne partie du territoire.
Globalement, comment vous évaluez la situation sur les plans sécuritaires et des droits de l'homme au Nord Kivu et en Ituri en cette période de l'état des sièges?
Encore une fois, beaucoup de défis. J'ai noté ce qu'on a entendu, encore une fois, des populations. C'est au sujet de la ville de Béni, donc un climat qui est bien meilleur dans la ville, mais ça ne doit pas occulter le fait que dans la zone du Nord Kivu et aussi maintenant en Ituri, il y a une situation qui reste très dégradée, et aussi le fait que lorsque nous engageons des opérations contre les ADF, ceux-ci qui sont très mobiles et qui procèdent par petits groupes font des représailles en allant tuer parfois de nuit des civils. Et là-dessus, ce que je veux dire, c'est que nos efforts doivent porter sur plus de renseignements, plus d'informations, et hier nous avons parlé avec la population de ça. Ils nous ont dit eux-mêmes: mais nous pouvons être vos partenaires dans ce domaine. Nous pouvons aussi vous aider à être mieux informés sur les allées et venues des groupes, parce que ce n'est pas juste une question de technologie. Avoir davantage d'informations de qualité, mieux coordonner toute cette collecte de renseignements et être capable ensuite d'intervenir très vite pour répondre aux menaces. Donc, situation qui reste dégradée, il ne faut pas se le cacher, mais les bases d'une très bonne coopération sont là. Le renforcement des moyens, que ce soit de la brigade d'intervention rapide de notre côté, la remobilisation de toute la force au niveau de l'état d'esprit, de la compréhension du mandat robuste, et aussi les efforts qui doivent être faits du côté FRDC dans un bon esprit de coopération. Tout cela, je dirais, est prometteur, mais il faut continuer. On a une attente légitime qui s'exprime de la part de la population, et Monseigneur l'évêque de ce diocèse que nous avons rencontré à Butembo nous l'a dit clairement, et il a tout à fait raison.
Vous reconnaissez que la situation est restée dégradée, et exactement ces dernières semaines, les ADF ont multiplié les attaques contre les civils dans les territoires de Béni et à Djougou. Comment aujourd'hui vous évaluez les partenariats FRDC MONUSCO dans la riposte contre ces groupes armés, et comment avez-vous renforcé votre efficacité dans ces zones?
Sur la partie, je dirais, renforcement de notre coopération, maintenant il y a une coopération structurée à travers l'existence d'un état-major conjoint. Donc, la planification et les opérations se font maintenant de manière systématiquement conjointe avec les FRDC. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc, on a une bien meilleure transparence. Ça, c'est fondamental. Ensuite, comme je l'ai dit, notre outil est notamment la FIB, mais la FIB, ça n'est qu'une partie de la force. Toute la force est engagée, a été renforcée. Je souligne que du côté des FRDC, la question des réformes nécessaires est prioritaire. Et je le dis d'autant plus que c'est une priorité qui est clairement exprimée au plus haut niveau de l'État.
Jean-Pierre Lacroix, merci.
Merci beaucoup.
Voilà qui met fin à cette édition de journal sur Radio Okapi.